Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le succès de l'autogestion ? Pourquoi le projet socialiste était-il considéré comme indissociable de la socialisation des moyens de production ? Qu'est-ce qu'une entreprise si son capital est défait ? Quelle est l'importance de l'expertise d'usage ? Pourquoi une nouvelle culture politique ? Pourquoi la résurrection de la société civile ? Nous retrouvons ce matin le regard rétrospectif et critique, au sens d'examen, de Pierre Auzan-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, qui a choisi cette année et l'an prochain, en un moment de montée des périls et d'effritements démocratiques, d'interroger les enthousiasmes et les explorations des années post-68 dans une grande histoire intellectuelle et politique. Notre historien, témoin et acteur, étudiant en 1968 et engagé au sein de la CFDT, ainsi qu'au sein de la revue de Michel Rocard intitulée « Faire » dans les années 1970, mêle analyse des hommes, des œuvres et des événements à son récit personnel. À partir donc de son propre itinéraire, il interroge l'esprit et les recherches autour de l'autogestion, d'une nouvelle culture politique, de la notion de rupture nécessaire, d'une conception du changement fondée sur l'expérimentation sociale, d'une redéfinition du militant et du caractère délibératif de la démocratie dans les années 1970 et de la société civile, concept alors vieilli, hérité des penseurs écossais, mais revivifié notamment à l'Est, en Pologne, avec Guéremec, les dissidents qui opposent le pays réel au pays légal, les citoyens ordinaires face au PC. Avec le premier choc pétrolier et les cessations d'activités nombreuses, c'est le vide juridique. C'est aussi alors la définition de l'entreprise qui est interrogée au carrefour non d'un droit uniforme, mais de plusieurs droits. Pierre Auzan-Vallon met à jour ce matin et demain l'ossature de ce qu'on a appelé plus tard la deuxième gauche. Le cœur du cours aujourd'hui, c'est l'autogestion. C'est le mot époque, le mot carrefour, le mot aspiration de ces années 1970. Il cite les vers d'Éluard pour le poème Liberté qui ouvre son livre L'âge de l'autogestion en 1976 et c'est tout un programme. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Marqué par l'expérience de 1968, Pierre Auzan-Vallon n'a pas poursuivi dans la voie prévue par ses études à HEC. Il a choisi d'accompagner en intellectuel les mutations et les urgences politiques de son époque. Au début de son ouvrage « L'âge de l'autogestion », il écrit « Parler de l'autogestion, c'est d'abord s'interroger sur la fortune d'un mot. Un mot nouveau, véritablement imposé après 1968, un mot au sens étymologique restreint, l'autogestion, c'est la gestion par soi-même. Et pourtant, autogestion est devenu l'un des mots-clés du vocabulaire de la gauche française. Il a même fini par s'identifier, nous dit-il encore, à une sensibilité politique qui se veut novatrice et par qualifier tout un ensemble de mouvements sociaux. La force de l'autogestion, c'est d'abord cela. Aussi n'avons-nous pas hésité à mettre en exergue de ce travail l'étonnement du poète, celui qui croit à la force des mots pour augurer une réalité nouvelle. Ces réalités nouvelles, nous les explorons tout de suite en gagnant l'amphithéâtre du Collège de France le 18 janvier dernier pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui autogestion, société civile et nouvelle culture politique.
Si mon mai 68, comme pour beaucoup, était un mai 68 à la base, fait à écouter, discuter, échafauder des plans d'avenir du matin au soir, à lire aussi à marche forcée, car il semblait urgent de devenir plus savant pour lutter. Si nous étions, c'est un mai 68, je dirais, des anonymes, des enthousiastes, des curieux, ce mai 68, il a été aussi pour moi le moment d'une bifurcation, car c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec la CGT puis la CFDT et décidé de ne pas rentrer en entreprise. Donc dès ma dernière année d'études, je travaillais à la CFDT, donc j'ai pris la connaissance d'un autre mai 68. D'un mai 68 qui était celui d'un changement de la condition ouvrière avec les mises en place du SMIC, celui d'un mai 68 qui était le changement de la condition ouvrière avec le grand processus de mensualisation. Avant, dans les entreprises, il y avait une barrière extraordinaire entre les horaires et les mensualisés. Le fait que tout le monde devienne mensualisé est une petite révolution psychologique et pratique de la condition ouvrière très importante. C'était aussi la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc, de cet observatoire décalé du monde étudiant, on voyait aussi les effets en profondeur qu'avaient produit les thèmes de la demande d'autonomie ou de la critique de la hiérarchie dans les différents domaines de l'existence. Cette vision avait été précipitée pour moi par le fait que nous étions tenus en première année HEC à faire un stage qui s'appelait un stage ouvrier. L'idée était que ceux qui étaient destinés à devenir les dirigeants d'un pays devaient avoir l'expérience de ce qui se passait en bas de l'échelle pour exercer plus efficacement leurs responsabilités. Cela pouvait certes aussi conduire à justifier de façon plus perverse une certaine prétention à connaître la réalité aussi bien que l'ouvrier. Et une vision paternaliste se liait ainsi dans cette formule à l'attente d'un management plus efficace. Mais l'attrait pour la découverte d'un nouveau monde pouvait aussi rentrer en ligne de compte pour les étudiants. Je me souviens d'un ami de l'école des mines qui s'était par exemple retrouvé à piocher du charbon à la frontale. Il n'avait plus vu le monde de la même façon ensuite. À HEC, les choses étaient comprises de façon plus souple que dans les écoles d'ingénieurs. Et beaucoup d'élèves essayaient de dénicher des stages peu contraignants dans des bureaux sur des lieux de vente. Et je voulais au contraire faire une expérience différente. Et lorsque j'étais un des responsables de l'Union des grandes écoles, c'était l'UNEF pour les grandes écoles, l'UGE, j'avais lu « Militant chez Renault » de Daniel Mottet. Et j'avais donc été frappé à la porte de Renault qui m'avait engagé pendant 2 mois sur une chaîne de montage des 4L à un poste de sellerie. Et le fait d'entrer dans cette forteresse ouvrière et de voir le type de revendications, le type de remarques, la présence de travailleurs immigrés qui étaient alors présents, l'île Seguin où étaient rassemblées ces différentes chaînes de montage était un espèce de gigantesque château fort dont les murs plongeaient droit dans la Seine sur 3 étages d'ateliers et de chaînes. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, j'étais de l'équipe du matin, c'est-à-dire de 6h à 16h, les journées de travail étaient alors de 9h30. Je n'avais pas beaucoup d'énergie pour sortir le soir. Mais un soir, j'étais allé avec des amis voir La Chinoise de Godard, qui venait de sortir et tout le monde parlait comme un film absolument extraordinaire. Et je m'étais alors soudain trouvé transplanté dans un monde du discours qui me semblait pour le moins totalement déconnecté de la réalité. Et c'est de ces jours que j'ai su que je ne suivrais pas la voie de mes condisciples et que je chercherais à me rendre utile autrement dans la vie. Et c'est donc comme cela que j'ai commencé à travailler à la CFDT et que je suis devenu, dès 1969, secrétaire confédéral de cette organisation. C'est donc bien loin du monde étudiant que j'ai vécu l'après 68 et que j'ai pris conscience que 68 n'avait pas simplement changé des existences de personnes de mon milieu, mais avait changé en profondeur la société française. La CFDT, à l'époque, prenait sa part directe à tous ces mouvements de modernisation de la société. Par exemple, elle avait été une des premières formations qui avait mis en place le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. C'est aussi à ce moment-là que se sont développées les associations de défense du cadre de vie, je dirais le préliminaire des mouvements écologistes et qui tous se rapprochaient de la CFDT qui était apparue en 1968 comme un mouvement particulièrement ouvert et dynamique. Je rappelle que c'est à ce moment-là le seul syndicat qui faisait des conférences de presse régulières associées à l'UNEF à Paris. Et donc, on voyait un sociologue comme Alain Touraine en parler comme d'un opérateur politique des nouveaux mouvements sociaux, avec à cette époque des nouveaux types de conflits sur les conditions de travail qui mobilisaient des OS, des femmes et des travailleurs immigrés, alors que c'était auparavant surtout dans le milieu masculin et français des ouvriers professionnels que les syndicats étaient employés. Dans ce mouvement, qui est un mouvement qui s'est étendu sur pratiquement tous les années 1970, c'est en 1973, le conflit libre qui fera date. Mais ce conflit libre qui fera date ne sera pas seul. Il y aura énormément de conflits novateurs de ce type-là. Et c'est dans la poursuite, si je puis dire, de ce mouvement, de ces mouvements, que peu à peu ont commencé à germer, à apparaître les idées qui allaient constituer le capital de ce qu'on apportait la deuxième gauche. Les idées d'autogestion, de nouvelles cultures politiques ont été à cette époque des idées qui cherchaient de non seulement à donner un horizon, à donner un arrière-fond à l'ensemble de ces nouveaux mouvements, de ce nouveau type de revendications qui émergeaient, mais qui proposaient aussi de les inscrire dans une vision théorique qui permettait de les rattacher à des traditions du mouvement ouvrier, de leur donner une ampleur, une largeur de vue qui permettait d'en faire aussi des mouvements qui pourraient avoir un avenir de changement profond de la société. Je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est donc bien loin des relectures que l'on fait aujourd'hui de 1968. On a l'impression aujourd'hui, chez certains, que 1968 a été simplement un temps de l'hédonisme, un temps du libertaire complètement échevelé. La réalité qu'il faut voir, ce n'est pas ces quelques minorités qui ont été effectivement fortement médiatisées dans les journaux, mais ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société. Et c'est de ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société qu'ont émergé l'ensemble des idées, l'ensemble des réflexions qui ont fait des années 70 le moment d'une sorte de laboratoire intellectuel et politique fondamental. Ce laboratoire, je l'ai vécu pour ma part de l'intérieur de la CFDT, puisque j'ai été le fondateur de la revue de réflexion de la CFDT, CFDT aujourd'hui en 1973. Je l'ai vécu aussi en étant l'un des fondateurs de la revue rocardienne, de la deuxième gauche, de la revue Fer. Je l'ai vécu dans la proximité personnelle avec Michel Rocard et surtout dans la proximité avec tout un ensemble d'intellectuels qui ont essayé de donner à ces années 1970 un goût de non simplement de renouveau des actions, mais de refondation intellectuelle et politique. C'est ma fonction de rédacteur en chef de la revue CFDT aujourd'hui et ma position de conseiller auprès d'Edmond Maire qui avait progressivement fait de moi, disons, une sorte d'intellectuel organique du syndicat. J'y étais en effet sur beaucoup de fronts, pour écrire des articles, bien sûr, mais aussi pour aider à formaliser des positions, rédiger des textes de congrès, assurer le secrétariat de multiples réunions, qu'il s'agisse de rencontres avec la CGT ou des partis de gauche, ou encore de groupes de travail internes. Je participais aussi activement à des sessions de formation de militants et de permanents, fonctionnaient alors ce qu'on appelait d'un beau nom les écoles normales ouvrières, dans lesquelles se forgeait une identité collective autant qu'un enrichissement des personnes. D'un autre côté, j'animais avec Patrick Vivray, qui en était le rédacteur en chef, la revue Fer, qui était l'organe intellectuel du milieu rocardien. Ces deux casquettes ont fait que je me suis trouvé au premier plan de la production des idées de ce qui allait devenir et de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Je rappelle que cette dénomination de deuxième gauche est très tardive puisqu'elle n'apparaît en fait qu'en 1982 à travers le titre d'un ouvrage d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman, qui était consacré à faire une histoire intellectuelle et politique de la CFDT. Donc, ce n'est pas une appellation qui est présente dans les années 1970. À ce moment-là, c'est simplement, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai davantage, à travers la notion de deuxième culture politique qui est qualifiée sous ce milieu politique et intellectuel. Et c'est donc en tant que témoin et acteur privilégié de cette page d'histoire que je peux en présenter les principaux ressorts intellectuels. Ils peuvent être regroupés autour de trois notions qui ont historiquement constitué son identité et dont l'élaboration s'est en fait confondue avec mon parcours personnel à l'époque. La référence à l'autogestion d'abord, l'idée de nouvelle culture politique ensuite, et la critique du social-étatisme et de la social-démocratie en troisième lieu. L'autogestion d'abord, on peut dire que ça a été le mot « époque ». Ce mot « époque », il a commencé à être publiquement mis en valeur dans un communiqué publié par la CFDT dès le début de mai 1968. Communiqué qui disait « À la monarchie industrielle et administrative, il faut désormais substituer des structures démocratiques à base d'autogestion ». Ce terme d'autogestion qui s'était imposé au cœur des événements n'était pas nouveau, mais il n'avait eu précédemment qu'un sens presque technique ou historique. Il avait en effet été adapté au début des années 1960 du serbo-croate pour qualifier le système yougoslave de gestion des entreprises. Entreprise yougoslave dans laquelle des conseils ouvriers qui étaient élus par l'Assemblée générale des travailleurs élisaient les responsables, contrôlaient leur gestion, tandis que l'organisation quotidienne de la production était gérée au sein d'unités décentralisées. Et des syndicalistes européens s'étaient bien sûr intéressés à l'expérience, et en France notamment, au même titre qu'ils s'étaient intéressés au fonctionnement collectif des kibboutzim israéliens dans les années 50 et 60, qui ont été décrits dans de nombreux reportages comme des utopies pratiquées, qui incarnaient, avant la guerre des six jours en tout cas, un certain ethos socialiste qui avait été importé dans le pays par des sionistes héritiers du Bund. Le terme d'autogestion avait aussi été utilisé pour qualifier le mode de fonctionnement des premières coopératives en Algérie, dans l'Algérie de Ben Bella. Et on voyait là, à travers ces différents exemples, des formes pratiques qui pouvaient dessiner d'autres possibles au socialisme que celui qu'illustrait alors le système soviétique. Et des reportages et des livres assez nombreux avaient fait écho à ces initiatives. On avait en même temps commencé à associer le mot « autogestion » à des expériences conseillistes du passé. Et la revue « Autogestion » qui avait été lancée en 1966 par les éditions Anthropos, un des hauts lieux de l'édition d'un marxisme dépoussiéré, rassemblera tous ces éléments sous un même titre. Henri Lefebvre, qui sera une des personnes à l'origine de la création de la revue, parlera dans son premier numéro de l'autogestion comme d'une forme actuelle de la science de la liberté. C'était voire assez large. Et outre des ensembles consacrés aux trois pays et aux trois types d'expériences que je viens de mentionner, ce seront aussi des pages alors un peu oubliées de l'histoire du mouvement ouvrier qui seront évoquées comme anticipatrices d'une nouvelle vision de l'émancipation. Des numéros spéciaux de cette revue autogestion seront ainsi consacrés au mouvement conseilliste dans l'Europe de l'après-première guerre mondiale, les républiques des conseils de Hongrie et de Bavière au printemps 1919, la formation de conseils ouvriers en Autriche, l'éclosion du mouvement spartakiste en Allemagne, l'instauration de conseils d'usine à Turin. À 100 lieues de la vision communiste classique de masse encadrée par le parti et la théorie de la dictature du prolétariat, ces exemples historiques montraient qu'une autre voie de l'action révolutionnaire avait parfois été empruntée et qu'elle était peut-être la plus fidèle à l'idéal de Marx pour lequel, je cite, « l'émancipation des travailleurs devait être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Les soviets de la révolution d'octobre, éliminés par le parti bolchevique, étaient aussi célébrés dans la revue, comme l'était la révolte des marins de Kronstadt, qui avait revendiqué la mise en place de tels soviets et soutenu en même temps les ouvriers de Petrograd en conflit avec le pouvoir léniniste. Et l'héritage de la Commune de 1871 était bien sûr également revendiqué. Avec cette mémoire conseilliste, c'est aussi toute une tradition intellectuelle marginalisée par le marxisme officiel qui avait fait surface. Dans les années 60, on avait par exemple republié l'ouvrage fondateur de Max Adler, l'un des animateurs des conseils de Vienne en 1919, qui avait pour titre « Démocratie et conseil ouvrier ». On avait aussi remis à l'honneur, dans les années 60, Anton Pannekoek, le grand astronome hollandais qui avait proposé une théorie politique et sociale fondatrice d'un marxisme conseilliste. De la même façon, Rosa Luxembourg, Fourier ou Proudhon étaient sortis de l'ombre et leurs œuvres rééditées pendant cette période. Pendant longtemps, ces auteurs et la culture conseilliste n'avaient intéressé que des petits groupes. Dans le milieu situationniste, par exemple, autour de socialisme ou barbarie, ou dans certains groupes anarchistes. Mais l'aspiration au renouvellement de la pensée marxiste à partir des milieux des années 60 avait élargi le cercle de ceux qui s'intéressaient à cette tradition et à ses auteurs. Et le printemps de Prague lui avait aussi redonné une forme d'actualité avec la mise en place de formes nouvelles de participation et de contrôle des salariés dans les usines. La revue Autogestion s'était ainsi faite l'écho de cette curiosité historique et du regain d'intérêt pour ces différents auteurs. Tout cela restait cependant encore fort modeste, et ce terme d'autogestion n'était alors familier qu'à un très petit nombre d'oreilles. C'est mai 68 qui marquera effectivement la vraie rupture. Elle ne se fera pas en un jour, mais le mot s'imposera rapidement. Dans le terme neuf d'autogestion se liait de la sorte une aspiration nouvelle et la mémoire d'une histoire trop longtemps refoulée. C'est ce qui l'a validée et lui a donné sa force d'attraction et sa capacité d'entraînement. Il n'y a pas de révolution sans des éléments de langage qui aient la capacité de jouer sur ces deux tableaux. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. J'avais alors trouvé que cette formule de Paul Éluard, employée dans son poème « Liberté, j'écris ton nom », disait bien les choses telles que je les avais alors ressenties. Et c'est pourquoi je porterai cette formule en épigraphe de mon livre « L'âge de l'autogestion » que je publierai un peu plus tard, au printemps 1976. L'autogestion, c'est aussi un mot carrefour, car dans l'immédiat après mai, ce terme a principalement été référé au monde de l'entreprise, se rapprochant, pourrait-on dire, de la notion de contrôle ouvrier, telle qu'elle était couramment conçue en Grande-Bretagne, avec le mouvement très vif à l'époque de ce qu'on appelait les shop stewards, c'est-à-dire les délégués de base, et se différenciant de la notion plus institutionnelle et plus limitative aussi de cogestion en Allemagne. Mais ce terme a rapidement pris un sens beaucoup plus large, renvoyant d'abord à la vision globale d'une société émancipée qui bannirait l'exploitation du travail autant que les différentes formes de domination ou d'aliénation. Comme mot qui reformulait en quelque sorte les grandes utopies socialistes du passé, mais qui en même temps gardait une dimension relativement floue. Relativement flou, car on parlait d'intervention directe des individus aussi dans tous les domaines de l'existence. On parlait, jusqu'à ce point, d'autogestion de la vie quotidienne, pour faire écho au rôle de comité d'usagers, d'associations de locataires, de comités de quartier. Et l'expression de démocratie civile était même parfois utilisée dans la même direction. La perspective était là celle d'une gestion aussi décentralisée que possible, des communs, d'une prise en compte de l'expertise d'usage des citoyens, d'une attention à l'implication du plus grand nombre dans les activités de la cité. Tout cela allait dans le sens d'une extension de l'idéal démocratique bien au-delà de la sphère électorale traditionnelle. Le terme de démocratie n'était d'ailleurs guère utilisé pendant cette période. Le terme démocratie était un petit peu fatigué, il était un petit peu vieilli. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le terme d'autogestion s'est facilement imposé pour se substituer à lui, d'une certaine façon. Car il renvoyait à ce qui aurait été une démocratie généralisée, comme l'ont dit certains à l'époque. Il y avait encore une dimension d'ordre anthropologique et sociétal explicite dans cette référence à l'autogestion, celle d'une véritable société d'égaux en dignité et en capacité, d'une société fondée sur la reconnaissance et le soutien de l'autonomie des individus. On pouvait parler dans cette mesure d'un mot aspiration, aux structures et aux contours structurellement flous. Le propre de l'autogestion a en effet a été d'être un mouvement social avant d'être une doctrine. Car, comme souvent, ces mots vagues sont à la fois des mots qui sont indissociablement une idée creuse et une idée à creuser, qui ne prend naissance que dans la lecture et dans l'action. Mais c'était aussi un mot « identité ». Au-delà de son contenu immédiat, le mot de gestion a en effet joué un rôle majeur comme marqueur d'identité politique au début des années 1970. Il a d'abord donné une centralité intellectuelle et sociale inédite à la CFDT, à un moment où celle-ci, je le rappelle, comptait trois fois moins d'adhérents que la CGT. Celle-ci est apparue dans cette période comme l'organisation de masse qui restait animée par l'esprit de mai. La Confédération, qui ne s'était dépoussiérée et déconfessionnalisée que peu de temps avant, en 1964, abandonnant seulement derrière elle un lambeau de CFTC, était d'un coup devenue celle qui donnait le ton, qui attirait l'attention, suscitait les sympathies, faisait référence. Et les gauchistes eux-mêmes observaient à son égard une certaine bienveillance qui allait jusqu'à pratiquer l'entrisme en son sein. Et surtout, de nombreuses associations, qu'elles soient féministes, consacrées à la défense des consommateurs, à celle du cadre de vie ou encore attachées à des expérimentations de démocratie locale, se tournaient vers la CFDT, en la considérant comme un partenaire et un allié naturel. Le PSU partageait alors l'essentiel de ses conceptions, mais il n'avait que quelques milliers d'adhérents et peu d'élus. À l'âge du présidentialisme, son capital politique résidait en fait seulement dans la figure de Michel Rocard, avec l'héritage mendésiste qu'il avait recueilli. Si les idées autogestionnaires pouvaient apparaître floues dans leur généralité, l'identité qu'elle dessinait dans le champ politique était, elle, beaucoup plus clairement lisible. Et le terme de socialisme autogestionnaire avait ainsi une signification directement sensible. Il renvoyait à des personnes, à des courants, à des organisations ou à des figures intellectuelles. Dès les lendemains du congrès refondateur d'Épinay, en 1971, le CRS de Jean-Pierre Chevènement en avait, par exemple, fait sa marque de fabrique. Ce sera la même chose, bien sûr, pour le PSU et la CFDT. Et cette dernière, la CFDT, cherchera d'ailleurs à un moment à aller plus loin en organisant, au début 1974, une série de colloques consacrés à réfléchir à l'autogestion en rassemblant ces différentes familles. À côté du PS avec le CRS en son sein, du PSU et de la CFDT, des plus petites organisations, comme les centres d'initiatives communistes, les dissidents du PCF, Objectif socialiste, un club indépendant, ou l'Alliance marxiste révolutionnaire de sensibilité libertaire, s'étaient ainsi rencontrés à plusieurs reprises. Et j'avais été, du côté de la CFDT, une des chevilles de l'entreprise dont le but était justement de tester la possibilité de constituer un courant autogestionnaire. Et le projet trouvera finalement une forme limitée d'aboutissement à l'automne 1974, j'y reviendrai dans un autre cours, dans la tenue des assises pour le socialisme. Appréhendée de cette façon, l'idée d'autogestion conduisait à un bouleversement de la structure politique de la gauche. Alors que le socialisme démocratique avait souvent, et jusqu'à présent, était compris de façon négative dans son rapport au communisme. On parlait ainsi couramment de gauche non communiste, et certains avaient même employé à l'époque, par dérision, le terme de communisme moins 20%, pour parler du socialisme. Et c'est dorénavant en termes positifs qu'il pouvait être appréhendé. La référence à l'autogestion permettait de doter d'une identité intellectuelle et politique valorisée en tant qu'idée neuve. Elle donnait un avantage comparatif à ses promoteurs. La question était d'importance à un moment où la suprématie électorale du Parti communiste était un élément clé du paysage politique à gauche. Je rappelle qu'aux élections présidentielles de 1969, celles qui avaient été provoquées par le départ du général de Gaulle à la suite de l'échec de son référendum sur le changement des institutions, Jacques Duclos, le candidat communiste, avait recueilli 21% des suffrages, alors que le candidat socialiste, Gaston Defferre, malgré le soutien de Pierre Mendès France, atteignait tout juste les 5%, et que Michel Rocard n'avait obtenu que 3,6% des voix. C'est-à-dire qu'en termes, si on additionnait le PSU et le Parti socialiste, cela faisait un tiers des voix du Parti communiste. Et les communistes voyaient dans ces conditions la montée en puissance du thème autogestionnaire comme une menace pour leur hégémonie. Et en faisant vaciller leur suprématie intellectuelle, c'est-à-dire celle aussi du type de marxisme dont ils se considéraient comme les défenseurs, voire les propriétaires, elles risquaient en même temps de saper leur position politique dominante. Et c'est pour cela que le Parti communiste et la CGT lancèrent donc en 1973, au moment où la thématique autogestionnaire avait le vent en poupe, une vaste offensive contre ce qu'ils qualifièrent de mots creux et d'utopie dangereuse. Et nous en avons longuement parlé, à ce moment-là, dans des rencontres qu'on appelait des rencontres idéologiques entre la CGT et la CFDT. Ils voyaient en effet dans l'affirmation de l'autonomie d'un socialisme autogestionnaire le dangereux point de départ de la constitution et de la reconnaissance de deux courants dans le mouvement ouvrier, ayant chacun son histoire, sa consistance théorique et donc sa légitimité propre. Et ce, d'autant plus qu'ils voyaient que c'était le discours que tenait la CFDT, de cette légitimité de reconnaître l'existence de deux courants et aussi d'une partie du Parti socialiste. Derrière le débat sur la pertinence et le contenu de la notion d'autogestion, c'est donc la question même de l'identité de la gauche qui était posée.
Collège de France et France Culture vous présente l'historien Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui autogestion, société civile et nouvelle culture politique.
La capacité d'attraction de l'idée autogestionnaire tenait essentiellement à ce qu'elle recelait de promesses de toute nature. Elle restait donc à constituer intellectuellement, à être déclinée en termes institutionnels. C'est la tâche à laquelle je m'attellerai dans les années 1974 et 1975, ce travail débouchant sur une longue série d'articles publiés dans CFDT aujourd'hui et au printemps 1976, donc, sur la publication de mon livre « L'âge de l'autogestion ». Dans l'ordre économique et social, ce travail s'était déployé dans deux directions principales. D'abord, dans la reconsidération de la notion d'entreprise, et ensuite, dans la tentative de fonder théoriquement la légitimité et la rationalité d'une intervention directe des travailleurs dans la gestion. Dans les années 1970, le projet socialiste était considéré comme indissociable de la socialisation des moyens de production. Le terme de collectivisation n'était plus employé, mais c'est celui de socialisation qui régnait, mais sous la forme de la nationalisation au premier chef. Nationalisation qui voulait dire pratiquement étatisation, puisqu'elle consistait juridiquement et institutionnellement en un transfert des titres de propriété à la collectivité publique. Et dans les faits, le fonctionnement interne des entreprises n'était donc guère modifié dans cette formule, même si le principe d'une gestion alors dite tripartite, héritée des premières réflexions du début du siècle sur les nationalisations, était rituellement mise en avant. Et nous étions quelques-uns à penser qu'il fallait aller plus loin si l'on voulait vraiment changer les rapports sociaux. Comment ? L'idée de ceux qui ont défendu le projet autogestionnaire et dont j'étais, c'était de déconstruire la notion même de propriété, de la déconstruire en distinguant ses trois attributs constituants. L'usus, le droit d'utiliser la chose, le fructus, le droit d'en percevoir les revenus, et l'abusus, le droit d'en disposer et de l'aliéner. Ça n'était pas une innovation que d'employer ces termes, puis ils étaient ceux-mêmes du droit romain. Mais ces différents droits, et c'est là qu'était l'initiative, était de dire que dans les entreprises du futur, ces différents droits ne devaient pas forcément être réunis dans la même main. Et c'est pour cela que j'avais mis en avant la notion de dépropriation pour qualifier cette dissociation. Plus opératoire et plus universalisable, semblait-il, que celle de collectivisation. Il devenait, en effet, dans ce cas, possible de considérer les entreprises, toutes les entreprises, comme des institutions au carrefour de différents droits, ayant une consistance propre en tant que cellules de production et collectives de travail, alors que le droit des sociétés n'était et n'est toujours que plus étroitement un droit des actionnaires. L'objectif étant d'appréhender, en général, l'entreprise comme un ensemble productif qui achète à crédit ou loue du capital, et non l'inverse. Et les premiers cas de cessation d'activité d'entreprise, ils se sont multipliés. Avec le premier choc pétrolier de 1973, avait d'ailleurs montré le vide juridique qui existait quand il s'agissait de concevoir les conditions de leur reprise et de la pérennité au-delà d'une attrition du capital. Qu'est-ce qu'était une entreprise si, justement, son capital était défait? Eh bien, il fallait d'autres définitions que celles du droit classique des propriétés. Et les réflexions dans cette direction étaient certes encore balbutiantes, mais elles allaient, me semble-t-il, à la racine du problème. Et elles n'ont pas perdu leur actualité à un âge où nous voyons que le capital a repris le pouvoir dans le monde économique. Et je signale d'ailleurs que c'est simplement dans la période très récente qu'un certain nombre de chercheurs, notamment de chercheurs autour de l'école des mines, sont en train de reprendre cette discussion théorique sur la définition d'une entreprise qui soit définie comme un carrefour de droits et non pas simplement comme un droit unifié. En deuxième lieu, la réflexion sur l'autogestion était liée au développement d'une considération des conditions dans lesquelles l'intervention des salariés sur leurs conditions de travail et la marche des entreprises pouvaient être développées sur des bases solides. La sociologie et la psychologie du travail avaient depuis longtemps souligné l'importance de l'expertise d'usage dans la gestion des ateliers. Et dès les années 1930, une fameuse étude américaine qui est fondatrice de la sociologie industrielle, l'étude d'Elton Mayo consacrée à la Western Electric Company, montrait que la méconnaissance des conditions pratiques de travail, de la vie au travail sur le terrain, était la source de multiples erreurs des bureaux de méthode. Et si les entreprises fonctionnaient mal, c'est justement parce que ceux qui organisaient le travail ne voyaient pas la réalité du travail à partir de la façon la plus immédiate dont il était vécu, la façon la plus immédiate dont l'organisation du travail se passait effectivement et pas en théorie. Et les enseignements de ce type d'études, qui s'étaient multipliés avec ce qu'on a appelé en Grande-Bretagne aussi, avec Dunlop, le développement de la sociologie industrielle, ils avaient trouvé au début des années 70 une confirmation dans les nouvelles théories informationnelles de la régulation, en biologie notamment. C'est l'époque où nous étions nombreux à relire les travaux de Brillouin, par exemple, à relire tous les travaux sur l'entropie des systèmes organisés. Et j'avais demandé à une des grandes figures de ce domaine, le biologiste Henri Laborie, qui était le premier inventeur de tout un ensemble de pharmacopées et de drogues, de faire le point sur ces questions. Et j'avais publié dans une petite collection que je dirigeais à l'époque un ouvrage issu de ces réflexions qui s'appelait « La société informationnelle, idée pour l'autogestion ». C'était donc dire que le propre de l'autogestion, c'était aussi de faire du travailleur une figure centrale parce qu'il était un des éléments décisifs de la production d'informations nécessaires pour organiser une collectivité ou un système de production. Et à l'époque, il y a eu d'autres ouvrages, à la fois écrits par des biologistes, je pense à Henri Atlan, qui jouera un rôle très important, ou Edgar Morin, qui, dans l'ordre de la vulgarisation pour Edgar Morin, qui avait été dans la même direction. Edgar Morin lancera à partir de là toute sa réflexion sur la complexité, entre guillemets. Et ces travaux, de différents ordres, donc, invités à considérer qu'une organisation efficace requérait à tous les niveaux l'implication de ses opérateurs dans la production et la réception d'informations sur le fonctionnement d'un atelier ou d'un ensemble plus large de façon générale. Approche, je le souligne, qui convergeait avec toutes les théories sur les rapports entre marché, institution et information. Je rappelle que le premier grand livre publié sur la question qui lui a valu un prix Nobel, c'est Ronald Coase, qui expliquait quelles étaient les conditions dans lesquelles on passait d'un système de marché à une institution. Jusqu'à Herbert Simon, un autre prix Nobel aussi d'économie, et plus récemment, Jon Elster. Tous ces travaux montraient à quel point l'information, et donc l'expertise d'usage, était un élément décisif à prendre en compte dans les systèmes organisés, et donc le système de production aussi. Ces deux exemples montrent bien les directions dans lesquelles commençaient alors à se mettre en place des explorations intellectuelles qui étaient susceptibles de donner un contenu plus opérationnel à l'idée d'autogestion, même s'il ne pouvait être question de répondre précisément à tous ceux qui demandaient « ça me paraît très bien, mais comment ça marche ?» Il était clair qu'il ne pouvait être question de décrire précisément un modèle. La référence à l'autogestion indiquait d'abord une direction et l'esprit d'une méthode, pourrait-on dire. Dans l'ordre démocratique, des formes démocratiques, des stratégies du changement et des visions globales de l'organisation sociale, c'est autour de la notion associée de culture politique que se noueront les propositions. Le terme « carrefour d'autogestion », nous venons de le voir, avait un caractère composite, renvoyant une aspiration sociale diffuse, celle d'une plus grande autonomie, en même temps qu'à des techniques spécifiques d'organisation. Oscillant donc, pourrait-on dire, en ce qui était de l'ordre d'une philosophie politique et ce qui qualifiait un certain type d'institution, utilisé aussi pour redéfinir la notion même de socialisme. Ce terme d'autogestion était ainsi en quelque sorte saturé, devenu trop étroit pour exprimer seul le renversement général de perspective qui le sous-tendait, et tout particulièrement la nouvelle façon de concevoir l'action politique à laquelle il renvoyait implicitement. C'est pourquoi j'avais proposé d'utiliser de façon complémentaire la notion de culture politique. C'est dans un article de la revue Faire, la revue du courant rocardien, qu'avait été esquissée pour la première fois cette notion. Par culture politique, j'entendais, je désignais, l'ensemble des représentations, des conceptualisations et des principes d'action, implicites ou explicites, qui formaient l'ossature mentale et instrumental d'une vision donnée du politique. Cette appréhension de la notion de culture politique était donc très différente de celle que faisaient un certain nombre d'historiens du politique comme René Raymond, pour qui la culture du politique se définissait simplement comme le système de normes, de valeurs, de croyances et de procédures dans le champ politicien proprement dit, en matière de choix électoraux ou d'adoption de positions par exemple. C'était donc une définition très différente de celle qui était proposée par ce type d'historien. J'aurais pu, à la place, parler de paradigme, reprendre à Foucault sa catégorie d'épistémé, qui était alors très en vogue, après la publication qu'il avait faite de l'archéologie du savoir, ou encore celle d'Habitus à Bourdieu. Mais outre la consonance plus académique de ces catégories, moins susceptible à mes yeux pour cela d'être appropriée par un large public citoyen, elle n'avait pas, à mes yeux, le caractère dynamique nécessaire pour rendre sensible, ce qui était décisif, la dimension historique et conflictuelle du champ politique. Pour une nouvelle culture politique, l'ouvrage que j'ai publié sous ce titre un an plus tard avec Patrick Vivray allait proposer dans cette direction un cadre conceptuel pour rénover ou essayer de rénover tant les formes d'action de l'action politique que le statut même du politique. Et l'accent était mis sur quatre points essentiels. La reconnaissance de la société civile comme acteur central d'abord, en second lieu une conception du changement fondée sur la notion d'expérimentation sociale, en troisième lieu une redéfinition du militant comme nouvel entrepreneur, et en quatrième lieu l'insistance sur le caractère proprement délibératif de la démocratie. La centralité de la société civile d'abord. Au tout début des années 1970, le terme de société civile n'avait plus cours. C'était un mot vieilli. Il n'évoquait que des traités oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles. Seuls quelques érudits, par exemple, connaissaient l'essai sur l'histoire de la société civile d'Adam Ferguson, un ami d'Adam Smith qui appartient aux Lumières écossaises, ainsi que les travaux de ces Lumières écossaises, et notamment les livres fondateurs à cet égard, qui avant Adam Smith étaient ceux de Mandeville, et notamment la fable des abeilles, qui avait formulé une théorie de la société fondée sur la considération des activités autonomes de ses membres. Et donc, le propre de ces premiers utilisateurs de la notion de société civile était de dire que la société n'était pas un corps politique ou un ensemble constitué par des autorités, mais que la société était un système d'interaction libre. Et donc, opérer une rupture par rapport à la vision hobbesienne classique. Et c'est dans les pays de l'Est, et en Pologne tout particulièrement, que l'on avait commencé à se ressaisir du concept de société civile pour légitimer les droits de la société contre ceux de l'État. Et dans la bouche des grandes figures des dissidents polonais, je pense par exemple à Adam Michnik ou à Bronisław Geremek, société civile voulait alors dire le pays réel contre le pays légal, les citoyens ordinaires contre le parti communiste, la société contre l'État bureaucratique. C'était une catégorie fondée sur une appréhension de la distance entre eux et nous, qui justifiait en elle-même la revendication de droits par l'opposition. De façon plus large, c'était pour eux définir le totalitarisme à partir de sa prétention, injustifiée à leurs yeux, d'un État parti à représenter la société, voire même à l'incarner et à l'absorber. L'usage du terme « société civile » s'imposera aussi en Amérique latine dans les pays sortant d'une dictature militaire. On tablera dans ces pays sur, l'expression était très fréquente à l'époque, une résurrection de la société civile comme élément clé d'une transition démocratique voulant conjurer le risque d'un retour à des formes d'autoritarisme. Dans le cas français, il sera justifié sur une autre base, par la considération d'abord de la prédominance historique de l'État dans l'organisation de la vie sociale, rôle exorbitant comparativement à celui d'autres pays, renvoyé au fait d'un jacobinisme consubstantiel à la construction nationale, devenu désormais dépassé. C'était conséquemment appelé à renforcer la place du contrat par rapport à la loi, à développer les capacités d'auto-organisation des citoyens, à reconnaître le rôle des mouvements sociaux comme force structurante de ce qu'on a commencé à appeler la société civile organisée, à s'engager aussi dans des politiques de décentralisation, accepter les identités et les langues régionales. C'est autour de ces thèmes-là que de très nombreux mouvements sociaux se développeront dans les années 1970. Et le terme « société civile » deviendra du même coup, rapidement, un mot-clé du vocabulaire politique et social, dont l'adoption constituera en elle-même un indicateur des nouvelles attentes de la période. Dans l'après 1968, la question stratégique qui était partout débattue était celle des conditions d'une prise du pouvoir qui permettait de mettre en œuvre un vrai changement de société. Et c'est à ce propos que le deuxième volet, je dirais, d'une nouvelle culture politique, la stratégie d'expérimentation sociale, trouve sa justification. On parlait aussi vaguement à l'époque, c'est un mot absolument décisif de la période, de rupture nécessaire. Au fameux congrès d'Épinay, François Mitterrand avait d'ailleurs dit « Celui qui refuse l'idée de rupture, celui-là n'a pas sa place dans le Parti socialiste ». C'est une phrase restée célèbre pour ce qu'elle représentait de tactique et ce qu'elle a fait advenir de politique. Le temps politique restait de la sorte appréhendé en termes de discontinuité entre un avant et un après. C'était une façon de prolonger l'ancienne rhétorique révolutionnaire dans des termes euphémisés. même débarrassé des accents insurrectionnels et du langage de guerre civile, un moment revivifié après 68, celle-ci restait en effet mentalement et psychologiquement prégnante dans de nombreux cercles militants. Et les résistances, par exemple, rencontrées par le PCF à son 22e congrès de 1976, lorsqu'il avait proposé d'abandonner la référence dans ses statuts à la dictature du prolétariat, ont constitué un exemple très spectaculaire de cette forme de résistance. Louis Althusser et Étienne Balibar avaient notamment pris la tête de l'opposition intellectuelle au projet, dans des termes qui sont d'ailleurs intéressant de rappeler. Le pouvoir d'État est toujours le pouvoir d'une seule classe, estimait ainsi Balibar, en concluant à la nécessaire destruction de celui-ci, façonné qu'il était par les intérêts de la bourgeoisie, et donc à l'instauration d'un pouvoir alternatif, je le cite, de la classe des travailleurs exploités par le capital. Si le réformisme n'était pourtant plus systématiquement rejeté, d'ailleurs, dans la tradition marxiste elle-même, il était toujours à minima reconnu comme ayant sa pleine zone de validité dans la sphère de l'action syndicale. Ce sont les textes fameux de Marx et d'Engels sur le rôle des syndicats. Il restait ce terme de réformisme intellectuellement suspect. Soit que l'on juge qu'il conduise in fine à abandonner la perspective d'un vrai changement, soit qu'il fasse l'objet d'une récupération. Récupération, il suffisait d'ailleurs à ce moment-là de prononcer ce dernier terme pour que la réflexion se fige. Le terme de récupération avait le pouvoir de tétaniser et de culpabiliser les esprits et conduisait maintes personnes à rester l'arme au pied de peur de faire le jeu de l'adversaire ou, selon aussi un autre terme très employé de l'époque, d'être intégré. La problématique de l'expérimentation sociale a proposé de rompre avec ces sortilèges en dessinant une alternative pratique et stratégique, tant à la pensée révolutionnaire traditionnelle, souvenons-nous à cet égard des fameuses remarques qui avaient été faites à Edouard Bernstein quand il avait appelé, à la fin du XIXe siècle, la social-démocratie à apparaître pour ce qu'elle était. Le réformisme traditionnel était en effet toujours resté situé dans la même perspective du temps historique que celui de l'action révolutionnaire. La réforme entendait simplement distiller et égrener lentement le temps que la révolution voulait condenser brutalement. Mais elle concevait également le temps de la même façon comme continu, de même que l'espace comme homogène. La stratégie d'expérimentation bousculait ces catégories de l'utopie, de la réforme et de la révolution, dans la mesure où elle s'enracinait dans d'autres représentations du temps et de l'espace. C'est parce que nous considérions que le temps et l'espace n'avaient pas l'homogénéité qu'on leur prêtait que cette stratégie d'expérimentation avait une raison d'être. Elle ne consistait ni en l'adoption d'un gradualisme réformateur, ni en la proposition de mise en place d'îlots d'utopie. Elle prenait comme point d'appui les discontinuités, les interstices, les zones d'indétermination des territoires et des institutions pour les subvertir et montrer la possibilité d'autres fonctionnements et d'autres modes d'organisation. À un moment où ces organisations, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de la prison, étaient d'ailleurs souvent en crise. L'expérimentation visait, selon une formule d'Henri Lefebvre, qui sera très proche de cette démarche, à produire de l'espace différentiel. Perspective qui était inséparable d'une attente de redéfinition des institutions, de leur rapport à la société et de leur fonctionnalité même qui est alors forte. Je rappelle d'ailleurs que s'il y a en quelque sorte des prolégomènes de l'esprit de 1968, c'est dans les professionnels de ces institutions qu'on pouvait le trouver. C'est dans le monde des réformateurs de l'école, de ceux de la santé, de ceux de la prison, que l'on a trouvé ceux qui réfléchissaient à la société de façon neuve. Au milieu des années 1970, nombreux avaient été ainsi les travailleurs de ce milieu-là, aussi bien que les militants ouvriers, qui avaient trouvé dans cette perspective de l'expérimentation sociale la voie d'un renouveau de leur militantisme. Renouveau du militantisme que nous avions appelé de façon provocante le militant comme nouvel entrepreneur. Les possibilités spécifiques que pouvaient ouvrir des changements politiques, notamment électoraux, restaient évidemment prises en compte. Mais tout ne se rapportait plus à ceci avec le développement des pratiques d'expérimentation. La notion traditionnelle de transition au socialisme s'en trouvait également modifiée, comme la conception de ce que militer voulait dire. Jusqu'à cette période, le militant restait défini par l'étymologie du terme. Il était le bon petit soldat d'une cause, le distributeur de tracts ou le simple haut-parleur de la bonne parole d'une organisation, le fantassin d'une armée dont les généraux fixaient la stratégie et dirigeaient les mouvements. Après 1968, cette vision avait été ébranlée et la base militante, dans beaucoup de mouvements et d'organisations, avait revendiqué le droit de prendre davantage part à la détermination des organisations à laquelle elle se rapportait. Et un des débats qui sera emblématique de cette demande sera la contestation qui commencera à se faire jour à l'intérieur du Parti communiste de la notion de centralisme démocratique. Et si c'est au 22e congrès en 1976 que cette notion avait commencé à être débattue, il faudra attendre 1994 pour qu'elle soit définitivement ôtée des statuts. Et c'était les formes et le sens même de l'action militante qui allaient ainsi être appelées à être bouleversées, pensions-nous avec Patrick Vivray. Et le mouvement en ce sens apparaissait d'ailleurs irréversible, comme en témoigneront toute une série d'ouvrages sociologiques consacrés à la question du militantisme pendant cette période, à ses mutations, à ses évolutions et aux nouvelles attentes dont il faisait l'objet. Et nous avions pour cela invité à considérer ces militants comme de nouveaux entrepreneurs. C'était eux qui étaient les vrais innovateurs dans la société. Et c'est en effet bien eux qui devenaient en profondeur les hommes et les femmes du vrai changement. À l'automne 1977, j'y reviendrai, nous avions la revue Faire organisée avec le Nouvel Observateur un grand forum sur l'expérimentation sociale auquel participeront beaucoup de militants dans les différents domaines, justement, de la santé, de l'école et de l'hôpital, et que ces militants, le Nouvel Observateur, les avait appelés les nouveaux entrepreneurs comme hommes du vrai changement. Et c'est vrai que c'était dans ce domaine, autour de ces idées-là, qu'il y avait effectivement les forces sociales porteuses d'innovation. Ainsi définis, les militants n'étaient plus simplement des vigilants, des résistants ou des supplétifs d'une armée de réserve. Ils étaient les acteurs directs du changement. Et on verra d'ailleurs que la notion même de militantisme ne sera plus liée, selon les mêmes termes, à celle d'organisation, mais deviendra une notion beaucoup plus diffuse et aux frontières beaucoup moins nettement tracées que lorsqu'il s'agit justement de définir le rapport d'activisme ou de subordination à une organisation.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon le 18 janvier dernier, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui autogestion, société civile et nouvelle culture politique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Il a publié « L'âge de l'autogestion au seuil » en 1976, puis l'année suivante « Pour une nouvelle culture politique ». Je rappelle aussi son dernier ouvrage, disponible désormais dans la collection « Point seuil » depuis janvier, « Le bon gouvernement ». Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons les explorations intellectuelles et politiques des années 1970 en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, c'est Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.